Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique ce matin est Simon Guillaumard. Il est membre du bureau exécutif régional Les Écologistes Bretagne. Il est venu jusqu'à nous pour être en direct dans Bretagne 5 matin. Je l'en remercie. Bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Alors, on va parler d'écologie ce matin, mais je crois que vous aviez un petit mot à dire avant de
oui,
de commencer.
Un petit mot d'hommage à une amie qui est partie cette semaine, après une longue bataille contre le cancer, Marie, qui était conseillère municipale à Plélo, qui était musicienne, une vraie virtuose, et qui va à tous nous manquer. Voilà, je suis un petit peu ému ce matin, et donc j'adresse toutes ces condoléances à sa famille, Marc, son fils, Lucien, et voilà, et à tous ceux et à toutes celles à qui elle va beaucoup manquer. Voilà.
Voilà, au-delà du combat politique. Simon Guillaumard, l'actualité, comme l'on dit, continue. Et j'avais envie ce matin de vous entendre sur l'agglo, parce qu'on parle beaucoup de l'agglo en ce moment. Il y a les élections de 2026 qui arrivent, ça ne vous aura pas échappé. On va en dire un petit mot aussi tout à l'heure. Le groupe écologiste a décidé de faire des propositions en lien avec la solidarité sur l'agglomération briochine.
Oui, tout à fait. Donc hier soir, nous avions une conférence de presse à la Méogon, lors de laquelle nous avons fait plusieurs propositions. Et en fait, la philosophie qui est la nôtre, c'est celle d'appeler à une forme de feuille de route pour l'agglomération en 2026, pour avoir enfin un vrai programme et sortir d'une forme de cogestion avec la droite et d'assumer un programme de gauche à l'échelle de l'agglomération qui puisse aussi permettre aux électeurs d'avoir plus de cohérence et de clarté au moment des élections. Parce que finalement, aujourd'hui, l'agglomération, c'est souvent un petit peu un trou démocratique. On a du mal à comprendre sur quel programme sont élus les différents élus de l'agglomération. Et donc, c'était notre souhait de lancer cet appel à tous nos autres partenaires à gauche, chez les écologistes et aussi dans les listes citoyennes qui sont en train de se structurer dans les 32 communes de l'agglomération. Et donc, on a formulé trois premières propositions qui ne sont pas des choses arrêtées, qui pourront être l'objet de discussions. C'est simplement pour contribuer au débat.
Et donc, tout est ouvert finalement.
Totalement, tout est ouvert. Il n'y a pas de tabou. Il y a juste une volonté de construire ensemble. Et donc, on fait trois propositions autour du thème de la solidarité. La solidarité à la fois au sens territorial du terme. Et donc, on a une première proposition qui est une proposition phare, une mesure très forte que nous portons, qui est celle d'un centre intercommunal dentaire, puisqu'on a vraiment un manque et un vrai problème d'accès aux soins dentaires sur notre territoire. Je rappelle que le département des Côtes d'Armor est le département le plus sous-doté, voilà, tout à fait, le plus sous-doté sur ce sujet-là, avec seulement un dentiste pour 1800 habitants. Et donc, alors qu'un dentiste a une patientèle de 800 habitants, ça pose vraiment question. Et puis on pense que ce sujet de la santé, qui est la principale préoccupation des Françaises et des Français, et c'est particulièrement vrai en Bretagne avec une problématique de désertification médicale, on doit l'adresser, et il faut l'adresser à l'intercommunalité, c'est-à-dire à l'échelle de l'agglomération, pour éviter les formes de compétition qu'il peut y avoir entre les différentes communes, et qui finalement nuisent à l'intérêt général. Puisque finalement, si c'est simplement les communes qui ont les moyens d'avoir un centre municipal de santé ou accès à la santé, alors on a une forme de rupture de l'égalité et on veut vraiment lutter contre ces formes d'inégalité territoriale.
Il y a une forme de concurrence qui s'établit finalement entre les communes qui peuvent et celles qui ne peuvent pas.
Totalement. Et donc on pense que voilà, sur le sujet des cabinets dentaires, c'est quelque chose qui demande pas mal d'investissement au départ. Et donc on pense que voilà, les communes ne sont pas en mesure de fournir seules ce type d'investissement et que donc l'agglomération est le bon échelon. Et puis le deuxième point de solidarité plus globale, c'est sur les services publics. Les services publics de l'agglomération qui répondent aux besoins essentiels des habitants et des habitantes, que ce soit sur le transport, les mobilités ou l'eau qui est un besoin vital ou encore la gestion des déchets. L'agglomération est vraiment l'échelon central pour adresser ces problématiques-là et correspondent à une grande partie des compétences, finalement, auxquelles ont accès les habitants des 32 communes de l'agglomération.
Là aussi, il y a une demande, il y a une attente, finalement, des habitants sur toutes ces problématiques.
Complètement. Et donc, nous, la volonté, c'est d'avoir une proposition de tarification solidaire, comme ça s'est fait dans d'autres grandes villes, et notamment des villes écologistes, qui ont planché sur ces questions, sur la tarification de l'eau à Lyon, à Nantes, des transports aussi à Grenoble ou ailleurs. Et on a envie, sur ce modèle-là, de refonder la tarification dans l'agglomération pour à la fois protéger les plus vulnérables et les plus précaires, avoir une tarification qui se base aussi sur les revenus pour finalement recentrer les services publics sur leur mission première, qui est celle d'offrir un service de qualité, ambitieux, mais aussi avec un aspect, un volet social.
Mmh. Voilà. Ceux qui peuvent plus payer, finalement, participent plus à la solidarité.
Oui, et puis aussi un volet incitatif. Voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans l'agglomération, le prix de l'eau est dégressif, par exemple. C'est-à-dire, plus on consomme d'eau, moins on paye. Et ça, c'est quand même, ça nous semble être vraiment déraisonnable aujourd'hui, alors qu'on connaît les enjeux qu'on a au niveau écologique, de sobriété, de l'usage de l'eau pour avoir une bonne gestion de la ressource. On pense que effectivement, le fait de rendre les prix progressifs, c'est-à-dire plus on consomme de l'eau, plus on paye, peut aussi avoir un effet incitatif qui est celui de réduire notre consommation d'eau, évidemment en protégeant les gens qui ont besoin d'eau pour boire.
Voilà, avec aussi cette demande, on l'entend souvent dans beaucoup de réflexions autour de l'eau, en disant l'eau est un bien précieux, évidemment il faut l'économiser, hein, là, je pense que c'est passé dans le discours aujourd'hui, mais il faut aussi ne pas priver ceux qui n'ont pas les moyens d'un accès à l'eau, c'est toute une question aussi aujourd'hui, comment faire pour les protéger ?
Complètement, et c'est pour ça que dans certaines villes, je pense à Lyon notamment, il y a eu aussi cette volonté d'avoir les premiers mètres d'eau gratuits, c'est-à-dire les premiers mètres cubes d'eau gratuits pour justement éviter que des personnes en situation de grande fragilité, de précarité, n'aient pas accès au bien le plus essentiel et le plus vital, c'est-à-dire l'eau. Et plus globalement, en fait, on pense que face aux coupes budgétaires qui sont annoncées, c'est le rôle des collectivités de, sur leurs compétences les plus essentielles, à savoir, comme on l'a déjà dit, mais les transports, l'eau, la gestion des déchets, d'assurer un haut niveau de service pour les habitants et les habitantes, et en même temps que ce soit une forme de filet de protection qui permette à toutes et à tous de pouvoir vivre dans de bonnes conditions.
Là aussi, ça participe de la cohésion sociale et là encore d'une forme de solidarité.
Oui, oui, tout à fait, et ça m'emmène à la troisième mesure phare que l'on défend, qui est celle d'une maison des associations à l'échelle de l'agglomération, en lien avec la compétence de développement économique, puisque nous pensons que le tissu associatif, culturel, sportif et citoyen est partie prenante de la vie économique du territoire, et il ne faut pas juste le regarder simplement comme les associations séparées de la vie économique. Mmh. Non, ce sont bien, et on le voit aujourd'hui avec les annonces de coupes qui sont faites, ce sont bien des acteurs au cœur de la vie économique de nos territoires, et donc c'est important aujourd'hui de prendre soin de ces acteurs-là, mais aussi de les soutenir, et donc on propose de mettre en place une maison des associations qui permette à l'échelle de l'agglomération de mettre en relation à la fois les personnes qui sont en mesure d'offrir du financement, que ce soit des partenaires privés ou publics, dans la recherche de sponsoring ou de mécénat pour soutenir nos associations sur le territoire.
Là aussi, ça repose le modèle associatif, en tout cas le financement du modèle associatif, on le dit souvent, on l'entend souvent au gré des antennes ou lorsque l'on lit la presse, les associations parfois, pardon de le dire, mais en mauvaise presse, parce qu'on dit, voilà, elles attendent tout de l'État ou des collectivités, elles ne diversifient pas assez leur revenus. Ça peut être la solution ou une des solutions.
Oui, je crois qu'aujourd'hui, quand on parle d'économie sociale et solidaire, quand on parle d'une nouvelle forme d'économie basée sur les communs, sur d'autres formes de gestion, de gouvernance, on doit s'appuyer sur les associations. Pas seulement, il existe aussi les coopératives, les entreprises à mission. Aujourd'hui, la manière dont, à mon sens, il faut aborder les choses, et nous, ce que nous défendons, c'est qu'il faut voir l'économie au sens large. Mmh. Il ne faut pas se cantonner à une manière de voir l'économie qui est toujours orientée uniquement sur les grandes économies et les grandes entreprises structurantes. Mmh. Évidemment qu'elles sont importantes et qu'il faut avoir un regard sur ce type de structure. Mais au fond, on sait très bien que ce qui fait vivre nos territoires, ce qui fait vivre notre économie, ce sont les petites et moyennes entreprises. Ce sont les artisans, c'est le boulanger, c'est le maçon, c'est toutes ces personnes-là qui font vivre notre territoire. Ce sont aussi les associations de solidarité, ce sont les aides à domicile en milieu rural, c'est ça qui fait vraiment vivre à la fois la solidarité, mais le tissu économique local avec des emplois qui sont non délocalisables. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut appuyer, c'est-à-dire sur cette économie qui revient sur les territoires, aussi avec un processus de réindustrialisation pour remettre des emplois, et je crois que c'est dans l'actualité, remettre des emplois, faire fonctionner le circuit court. Et c'est vraiment comme ça, à mon avis, qu'on pourra réaliser la transition et arriver dans une société plus juste et plus dynamique.
Et finalement, là encore, le cercle vertueux, puisque si on est sur les territoires, on peut aussi cibler les économies à faire et de façon raisonnable.
Oui, complètement. Et puis, et c'est là où aussi il faut toujours, à mon sens, aller encore plus loin dans la décentralisation et dans ce processus qui avait été lancé et qui n'a pas été abouti et qui n'a pas abouti au niveau des compétences, puisque les collectivités sont les plus à même. Mmh. Notamment en local, et c'est le cas de l'échelon de l'agglomération, de cibler pour le développement économique, de cibler les secteurs d'activité, de cibler les structures à même de participer au développement du territoire. Et c'est vraiment ça qu'il faut développer, et c'est pour ça qu'on propose une maison des associations. C'est parce qu'on pense qu'on peut aller encore plus loin dans le soutien aux associations sur le territoire, et qu'il y a une besoin parfois de mutualisation, de mise en relation, de travail en réseau des différents acteurs.
Là aussi, l'importance des réseaux, on en parle beaucoup, des réseaux de relations et de financement finalement.
Complètement.
Alors, les associations aujourd'hui, elles sont utiles sur les territoires, elles sont utiles aussi pour la solidarité, on le voit, on pourrait parler des associations caritatives qui prennent aussi, si vous me permettez le terme, en pleine figure, pour ne pas dire autre chose, ces coupes budgétaires. Est-ce qu'il faut aussi avoir une réflexion sur le budget plus globalement au sein d'une agglomération telle que Saint-Brieuc ? Alors, je parle de Saint-Brieuc, Armor Agglomération.
Oui, après, il faut faire attention à juste un point, c'est la question des compétences. Mmh. C'est qui finance quoi ? Et aujourd'hui, le problème est aussi qu'on demande à des collectivités de venir en aide à des associations alors qu'elles n'en ont pas les moyens et les ressources puisque ce ne sont pas leurs compétences propres. Donc, il faut regarder quels sont les échelons et quel est le bon échelon pour soutenir les associations. Et bien souvent, et ça a été dit par énormément d'élus, on a un désengagement de l'État et on demande aux collectivités sur pas mal de sujets, que ce soit la sécurité ou là, on parle de financement des associations. On a un désengagement de l'État et derrière, on demande aux collectivités de venir remplacer l'État, remplacer l'action de l'État, mais sans les moyens qui vont avec. Et donc, on se retrouve dans des situations complexes. Mmh. Et donc, aujourd'hui, il y a plutôt une volonté des collectivités de se recentrer sur leurs compétences principales. Et je crois qu'il faut aller dans cette dynamique-là. Et si jamais, comme je l'évoquais à l'instant, si jamais il faut aller plus loin dans le soutien aux associations, il faut que les collectivités en aient les moyens. Voilà. Après, il y a aussi le secteur privé avec des logiques de mécénat ou de sponsoring qui sont importantes. Et là aussi, il y a des marges de manœuvre puisqu'on sait qu'en France, les deux tiers des dons qui sont faits aux associations sont défiscalisés. Donc, il y a déjà aussi des dispositifs qui existent et qui peuvent permettre aussi de soutenir les associations quand elles en font la demande.
On peut imaginer un jour un guichet unique pour les associations, parce que c'est vrai qu'à chaque saison, les alors quand je dis saison, je mets les guillemets qui s'imposent, mais les associations vont solliciter qui la région, qui les conseils départementaux, qui les collectivités territoriales plus proches, comme par exemple les ADLO. Est-ce qu'on peut imaginer demain une échelle de compétences, une entrée unique finalement ?
C'est un petit peu le sens de la proposition qu'on fait avec cette maison des associations. Alors le problème étant que parfois il peut y en avoir aussi au département ou à la région. La volonté c'est quand même de créer une forme de guichet unique. Et je pense que ça peut être une vraie réponse. Après il faut faire attention aux objets technocratiques. Et parfois les guichets uniques on sait ce que ça peut donner aussi. Et je pense que les Français et les Françaises, les Bretons et les Bretonnes sont habitués à ce type de proposition là et à ce que ça peut donner. Donc il faut juste faire attention à ce que ça reste quelque chose qui va dans le sens d'une amélioration du service public et que derrière il y ait des moyens financiers. Parce que si on crée une nouvelle structure technocratique mais qu'il n'y a pas les moyens financiers, les moyens humains derrière, ça peut être encore une nouvelle usine à gaz.
Voilà, ne surtout pas compliqué, hein. Je crois que c'est un petit peu le maître mot et les demandes aujourd'hui des Françaises, des Français, des Bretons, évidemment. Il y a aussi, vous parliez tout à l'heure de mobilité, j'ai envie de revenir un peu sur cette notion de mobilité. On parle beaucoup aujourd'hui d'un dossier, on en a beaucoup parlé d'ailleurs sur cette antenne, de cette rouverture possible de la ligne qui est la seule ligne transversale encore en place, on pourrait le dire comme ça, entre le nord et le sud de la Bretagne, entre Saint-Brieuc et Auray, en passant par Loudéac et Pontivy. Alors là, il y a plusieurs visions des choses. Il y a une demande de certains élus d'y créer une voie verte, en tout cas sur une partie de son parcours. On a un maire, le maire de Ploc-Termitage, qui lui a décidé d'y mettre des vélo-rails, partant du principe que si on démonte la plateforme, eh bien, on ne reviendra pas en arrière et le train ne reviendra plus sur cet axe Saint-Brieuc-Auray. Là aussi, les écologistes ont une vue, et là aussi il y a un débat.
Et évidemment que cette question elle fait débat, évidemment qu'elle soulève plusieurs problématiques. Voilà, moi à titre personnel, et j'ai déjà dit sur votre antenne, je suis complètement favorable à la réouverture de la ligne Saint-Brieuc-Auray, et je salue d'ailleurs l'initiative du maire de Pleuc-l'Hermitage pour conserver les rails en place. Et effectivement, les projets qui sont avancés de voie verte, moi je pense qu'il faut aussi regarder dans le détail comment on fait les choses. Et je pense qu'il faut travailler avec la région. Et moi, la seule chose à laquelle je pense qu'il faut veiller sur ce sujet-là, au-delà de la question de réouverture, de réouvrir ou non la ligne, c'est qu'il faut bien penser que c'est un sujet d'ampleur régionale. Et que notamment, ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'une communes prennent une décision qui implique toutes les autres. C'est le principe d'un tracé sur une ligne ferroviaire. C'est que si on prend une décision à l'échelle d'une commune, ça s'applique à tous les autres, puisque c'est la portion de ligne qui sera fermée, et donc le train ne pourra plus passer. Et donc, il y a un point d'attention sur cette voie verte, c'est déjà évidemment la question de la réversibilité ou non. Et moi, je pense au cas de la Bruinière-Moron en Ille-et-Vilaine, où il y avait une voie verte, et le train aujourd'hui, la ligne a été rouverte, mais le train ne s'arrête plus là-bas, parce qu'il y a une voie verte. Donc ça pose une vraie question sur la réalité ou non de la réversibilité. Et puis évidemment, les arguments en faveur du vélo sont tout à fait valables et tout à fait entendables. Évidemment qu'il faut développer le vélo. Et là, c'est à l'échelle du département. On a un problème à l'échelle du département où on n'a pas assez de politique vélo. Et voilà, ici on a Quessois. Je pense que l'ensemble des gens qui vivent en ruralité dans les Côtes d'Armor pourront faire le constat qu'on a, on pourrait aller plus loin sur le vélo. Et je pense que c'est ça aussi la volonté, c'est de se dire, est-ce que cette ligne de chemin de fer est le bon endroit pour faire une voie verte, ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres endroits où on pourrait faire des voies vertes, notamment en lien avec les aménagements routiers qui existent déjà et qui sont gérés par le département. C'est peut-être une des pistes de réflexion à poser sur la table. Donc évidemment qu'il faut faire du vélo, mais je crois qu'il ne faut pas opposer le train et le vélo, et j'ai toujours cette phrase en tête, cette maxime d'un collègue qui me dit toujours, si on peut mettre un vélo dans un train, on ne met pas un train dans un vélo. Et effectivement, je crois que ça résume aussi toute l'ambivalence et toute la problématique de ce sujet-là.
Et il y a une demande des Bretons, une forme d'appétence pour le train. D'ailleurs, des jeunes générations, vous représentez aussi la jeune génération en politique, il y a une demande de la jeune génération de mobilité plus simple. Beaucoup de jeunes ont décidé aujourd'hui de ne pas avoir de voiture, c'est un choix, et d'utiliser les transports en commun, c'est plutôt une bonne chose pour la planète. Le train en fait partie. Là, reste aussi à imaginer des investissements, parce que refaire une ligne de chemin de fer, en tout cas, la remettre aux normes de sécurité et de circulation des trains, ça coûte très cher. Là aussi, la balle est dans le camp de la région, dans le camp de l'État aussi, malgré les contraintes budgétaires.
Bien sûr, et ça sera l'occasion d'un débat lors du prochain contrat de plan État-Région, qui est en fait le plan qui permet le développement des transports à cette échelle dans la région Bretagne. Et donc évidemment, la balle est dans le camp de la région Bretagne et aussi des élus locaux. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment une attention qu'on doit avoir sur notre territoire d'agglomération, mais aussi sur tout le tracé, puisque là on parle d'un tracé, y compris en allant jusque Pontivy, pour reconnecter cette ligne. Et donc il y a un besoin que les élus locaux se mobilisent pour demander à la région d'étudier la faisabilité de la réouverture de cette ligne et que l'on puisse mettre toutes les options sur la table. Et effectivement, il ne faudrait pas que ce débat, et c'est ce que je disais à l'instant, ne soit qu'un débat d'agglomération sur Saint-Brieuc ou qu'un débat municipal sur l'une ou l'autre des communes. Il faut vraiment que ce débat s'anticipe à une échelle bien plus élargie et que cette question, évidemment, remonte à la région.
Avec une attente des communes, de certaines communes en tout cas de Bretagne centrale, y compris celles où le train ne passe pas, mais qui pourraient être irriguées, parce que le train, bien sûr, ce sont les voyageurs, les utilisateurs quotidien, mais c'est aussi le fret, on peut imaginer, du transport. Il y a beaucoup de camions sur nos routes en Bretagne. Il ne s'agit pas d'opposer là aussi les camions et le ferroviaire, mais on peut imaginer des pistes multimodales.
Bien sûr, le fret, c'est une solution vraiment d'avenir. Et le train, globalement, est une solution d'avenir. C'est pour ça qu'il faut vraiment regarder ce sujet de très près. Et moi, je crois qu'il y a vraiment un enjeu sur ce sujet et qu'il ne faut pas passer à côté. C'est pour ça que là, on le dit, le sujet de la voie verte ou non, c'est un prétexte, mais c'est le prétexte à un débat plus large sur la question des transports en Bretagne. C'est un débat plus large aussi sur les transports dans notre département, je l'ai évoqué. Et je crois qu'il faut vraiment regarder ce sujet des mobilités. On le voit là en ce moment, il y a des travaux sur les routes, etc. On se rend compte à quel point on est nous-mêmes dépendants de la voiture. Et donc ce sujet, il faut vraiment, j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois quand je suis venu sur votre plateau, c'est vraiment un sujet d'accompagnement. Il faut accompagner les gens, et en fait, si on veut avoir des gens qui se reportent sur d'autres types de transports, il faut accompagner, parce que sinon ça ne se fera pas. Et donc on accompagne comment ? En développant l'offre. La clé, c'est le développement de l'offre. C'est ce qui se passe sur les trains aujourd'hui, où il y a une demande qui est exponentielle et où l'offre, la région Bretagne propose une offre en plus, mais il faut aller encore plus loin. Et donc voilà, le nœud du problème, à mon sens, c'est l'offre.
Alors l'offre, elle est aussi touristique, parce qu'on est quand même une région, ça n'aurait échappé à personne, touristique, et on sait que beaucoup de touristes qui viennent en vacances, si demain on leur propose un transport ferroviaire entre le nord et le sud et le nord évidemment, ça marche dans les deux sens, auront peut-être plus envie de prendre le train pour découvrir autre chose.
Complètement. Alors après, à ceci près que moi, la pensée que j'ai sur les transports, et les écologistes, on est beaucoup dans cette dynamique, est d'abord sur les transports du quotidien.
Bien sûr.
Et évidemment, cette ligne-là, c'est pour ça que souvent les gens ne comprennent pas, ils disent mais c'est pour aller de Saint-Brieuc à Auray, mais ce n'est pas juste ça. C'est aussi desservir tout le sud, par exemple, de notre agglomération. Si demain on remet une ligne de train, ça veut dire que Saint-Julien, ça veut dire que même y compris sur Ploufragan, ça veut dire que Quintin, ça veut dire qu'on dessert toutes ces communes-là avec le train. Ça veut dire que les gens pourront monter dans leur train à Saint-Julien pour arriver à la gare de Saint-Brieuc, ou dans l'autre sens. On pourrait aller aussi de Saint-Brieuc à Quintin. Enfin, en fait, il faut vraiment regarder ce sujet-là. Comme, par exemple, quand on prend le train de Saint-Brieuc pour aller à Rennes, en fait, on peut s'arrêter à Lamballe.
Bien sûr.
Mais c'est ça le sujet. Et en fait, aujourd'hui, parfois, il y a aussi une volonté de la région Bretagne, c'est le cas aussi sur les voies vertes, hein, d'ailleurs, je le dis, de faire une approche cyclotourisme, alors qu'en fait, à notre sens, vraiment, si on veut répondre aux attentes des habitants, c'est d'abord les mobilités pendulaires. C'est-à-dire comment je me rends avec une mobilité décarbonée sur mon lieu de travail. Mmh. Et donc, effectivement, qu'il faut adresser le sujet, et évidemment que c'est vraiment un vecteur de rayonnement et d'attractivité touristique, le fait de pouvoir développer le ferroviaire, parce que ça permet aux gens de venir en vacances sans avoir de voiture, mais c'est d'abord, à notre sens, un sujet de mobilité du quotidien.
Alors bien sûr, il est évident que économiquement la ligne ne serait pas rentable si on ne travaillait que sur le tourisme. Voilà, mais c'est un des aspects.
Bien sûr, bien sûr.
Avec aussi aujourd'hui, alors on va parler des choses qui fâchent, parce qu'il faut bien en parler aussi, la route qui se développe, qui continue de se développer. Il y a toute une réflexion autour de cette fameuse rocade sud de Saint-Brieuc. D'aucuns demandent qu'elle soit terminée, malgré les surcoûts, de façon à désengorger la Nationale 12. On le voit aujourd'hui, c'est un peu compliqué à cette heure-ci d'ailleurs, sur la Nationale 12. Est-ce qu'il faut abandonner le projet? Est-ce qu'il faut le faire différemment? Ou est-ce qu'il faut... poursuivre ce qui était fait, ou en tout cas entamer.
Alors, je crois que les écologistes, notre position est assez claire sur le sujet, elle est connue de tous, hein, sur la rocade. En fait, aujourd'hui, on se rend compte aussi, et c'est ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est que sans offre alternative, on se retrouve dans le piège routier. Mmh. C'est comme ça que moi je le dis. C'est-à-dire que les études, toute la recherche scientifique sur le sujet est très claire, plus on fait de route, plus on génère du trafic. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est comme ça. Et donc, pour nous, rajouter des routes ne résoudra rien au problème. Et on l'a vu avec d'autres rocades qui se sont faites, au final, on est toujours sur le même type de problématique. C'est-à-dire que tant qu'on ne va pas plus sur du transport en commun, tant qu'on ne fait pas plus de covoiturage, et notamment le fait d'être seul dans sa voiture est aussi un vecteur du problème. Et voilà.
Les mentalités évoluent sur le covoiturage. On voit des aires de covoiturage pousser un petit peu partout, et ça fonctionne finalement.
Voilà, et en fait, je pense qu'il faut réfléchir aux alternatives, et puis ça pourrait être le moment de l'agglo, en fait. C'est le moment de cette discussion avec les autres partenaires de gauche pour dresser une feuille de route, pour aussi être le moment de propositions un petit peu innovantes. Moi, je pense à une solution, celle de bureaux d'étang, qui existe dans la métropole rennaise, et qui permet de mettre en coordination, d'avoir une sorte de coordination sur les horaires des différents habitants et des différents secteurs d'activité pour éviter d'avoir des heures de pointe. Et aujourd'hui, c'est un peu le problème qu'on a aussi dans l'agglomération, c'est que tout le monde fait la même chose au même moment, c'est-à-dire prend sa voiture pour aller sur son lieu de travail, pour aller déposer les enfants à l'école, voilà, etc., à la même heure. Et donc, il peut y avoir une réflexion, y compris en lien avec les transports en commun, pour réfléchir à la coordonnance, la concordance des temps pour éviter d'avoir des bouchons. Donc, la réflexion, elle est large, les alternatives, elles sont sur la table, mais effectivement, le covoiturage, les transports en commun, la pratique du vélo avec des pistes cyclables sécurisés font partie des réponses et un travail aussi collectif sur les temps comme je viens de l'évoquer, font partie des réponses, mais effectivement continuer à toujours faire plus de routes, et puis avec quel coût derrière, puisque on parle de coût, on parle de sommes très très importantes,
Le coût écologique aussi,
et évidemment le coût écologique, évidemment le coût écologique, mais ça je pense que les gens l'ont en tête. Voilà, mais si on veut parler de concret, c'est-à-dire effectivement à la fois de l'impact écologique, mais moi je pense aussi au volet financier, aujourd'hui on n'est plus sur des projets qui sont véritablement il ne s'agit pas de rentabilité, mais qui ont vraiment une possibilité d'advenir en raison des contraintes budgétaires.
Alors sur les routes où il faut partager la voiture et le vélo, en tout cas l'utilisation de la route pour les usagers d'un ou de l'autre mode de transport, on s'aperçoit qu'aujourd'hui on fait beaucoup de pistes avec des barres blanches, les vélos sur le côté, les voitures sur le milieu, et on s'aperçoit finalement que ça ne fait que tendre l'atmosphère entre les vélos ou les trottinettes, en tout cas les mobilités douces, et les voitures. Est-ce qu'il faut à un moment apaiser, là aussi, l'utilisation et surtout sécuriser, parce que finalement, une barre blanche ne sécurise pas grand-chose.
C'est le mot-clé. C'est-à-dire qu'une une barre blanche, sur un tracé blanc sur la route, ça n'est pas une piste cyclable. Ça n'est pas une piste cyclable. Une piste cyclable, c'est quand les vélos sont protégés, et il y a vraiment c'est une route à vélo, si on veut, c'est-à-dire qu'il faut vraiment séparer le vélo de la route. Sinon, c'est pas possible, on peut pas avoir un vrai développement, une vraie adhésion au vélo s'il n'y a pas de sécurité. Le maître mot, c'est ça, c'est la sécurité à vélo. Et donc, effectivement, il faut développer les infrastructures. Et c'est pour ça que je parlais du département tout à l'heure, c'est qu'il faut que collectivement, que ce soit à l'échelle des communes, à l'échelle de l'agglomération ou à l'échelle du département, et de la région, on développe des vraies pistes cyclables. Mmh. C'est vraiment ça l'enjeu, c'est de sécuriser pour que les gens puissent adopter ce moyen de transport en, vraiment en étant en sécurité, y compris pour les enfants. Mmh. Voilà, il y a eu beaucoup trop de drames. Mmh. Et c'est pas possible. Donc, le maître mot, c'est d'investir. Et donc, au même titre qu'on investit sur des routes, il faut investir sur des pistes cyclables.
Voilà, je vous disais ça parce que je pense que je ne prendrai pas mon vélo le matin pour venir travailler ici à la radio, étant donné la dangerosité de l'axe routier que j'emprunte. Voilà, ça c'était un petit peu plus personnel. On est sur une réflexion aujourd'hui écologique, on parle beaucoup de politique. Alors là, je vais élargir un petit peu, on a des budgets contraints, on a une France très fracturée, ça n'échappe pas à la Bretagne. Des élections vont arriver en 2026, les élections municipales, puis ensuite on aura l'élection présidentielle. On voit une poussée de l'extrême droite. Est-ce que c'est quelque chose là aussi qui entre dans les débats, dans les réflexions ?
Évidemment, évidemment, et on le voit partout sur les territoires où les écologistes, et je le dis d'ailleurs, sont en ordre de bataille, et sont prêts pour ces municipales à l'échelle de la Bretagne. On est prêts à ces élections. C'est un moment que l'on connaît, on l'a vu en 2020, sur lesquels il y a vraiment des enjeux et on a conscience de ça. Et je pense que c'est important. Vous voyez, aujourd'hui, ce matin, on propose à l'échelle de l'agglomération une forme d'union de la gauche et des citoyens, des écologistes. Ça a un sens parce qu'on a aussi ça en tête. On a en tête qu'on ne peut pas jouer solo, on doit jouer collectif. Face à la montée de l'extrême droite, c'est vraiment important d'être ensemble.
Ça va être difficile, l'union de la gauche, parce qu'on voit quand même chez les LFI une tension assez importante, par exemple avec le Parti Socialiste. Alors comment arriver à faire cohabiter, si je peux me permettre le terme, toute la gauche et rester unie avec une droite qui se recompose depuis l'arrivée de Bruno Retailleau à la tête des Républicains?
Oui, sur nos territoires, je parle par exemple, là je vais parler de autour de Saint-Brieuc, voilà, de tout ce qui peut se passer dans notre agglomération. L'union de la gauche, elle n'est pas d'aujourd'hui. À Saint-Brieuc, c'était le cas en 2020. Il y a eu aussi au département une plateforme qui a été mise en place. Il y a eu les législatives où on a tous pu se réunir avec d'abord la NUPES, puis le Nouveau Front Populaire. En fait, c'est cet esprit d'union de la gauche qui est déjà là, qu'il faut poursuivre. Et c'est aussi ça le sens de notre appel, c'est de dire on sait faire l'union. L'union, on sait faire. Et je pense que c'est un mot important aussi à dire, c'est que face à l'extrême droite, on peut et on doit continuer sur les territoires à s'unir, parce que seul, on n'y arrivera pas.
Et répondre aux préoccupations des habitants de ces territoires qui se sentent parfois abandonnés. On parlait de services publics tout à l'heure, on parlait de mobilité. On pourrait aussi imaginer qu'il y a toute une fracture sociale.
Mais complètement, et c'est pour ça que les propositions qu'on a faites vont dans ce sens. Moi, je pense que le maître mot, le mot-clé, c'est solidarité. Mmh. C'est-à-dire, c'est la solidarité, comme on l'a dit, la solidarité territoriale entre les plus petites communes, la ruralité, et puis les centralités, les plus grands, les centres-villes. Voilà, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait une solidarité, et aussi solidarité au niveau social, évidemment. Mmh. Sur la facture, on a parlé des services publics, effectivement, sur la tarification de l'eau, des transports, des mobilités. Comment faire en sorte que ce soit accessible à toutes et tous, peu importe ses revenus. C'est ça l'enjeu pour demain, c'est-à-dire vraiment, il faut répondre à l'urgence écologique, l'urgence sociale qui est là, qui est présente, et ça sera la meilleure manière de lutter contre l'extrême droite, c'est en acte. Donc il faut travailler ensemble et je le redis, jouons collectif.
Il faut travailler aussi sur la sécurité, c'est une des grandes inquiétudes aujourd'hui des Français en règle générale avec le trafic de stupéfiants qui monte beaucoup, y compris dans notre région.
Oui, bien sûr, c'est un sujet qu'il faut aborder sans tabou, qu'il faut regarder en face, et voilà, sans céder aux dérives sécuritaires. On le voit aujourd'hui, c'est la course à l'échalote pour savoir qui dira la plus grosse bêtise à l'antenne, à droite ou à l'extrême droite. C'est un sujet sérieux sur lequel il faut des moyens, et la première des choses, c'est de mettre des moyens. La première des choses que demandent les élus, c'est d'avoir des moyens pour la sécurité.
Et c'est là-dessus que l'on va conclure. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais voilà, on va se revoir parce qu'il y a là aussi les enjeux qui vont arriver des municipales et on en discutera beaucoup sur cette antenne. Simon Guillaumard, membre du bureau exécutif régional Les Écologistes Bretagne, était avec nous ce matin. Belle journée.
Merci beaucoup.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.